France Culture.
Le président de la République a, au cours d'une brève cérémonie, présidé à l'installation du Conseil constitutionnel en présence des présidents des deux assemblées et de plusieurs membres du gouvernement. Ce conseil sera la plus haute instance de l'État.
RTF, 1959.
Messieurs Vincent Auriol et Coty font partie de droit de cet organisme qui aura à faire respecter la lettre et l'esprit de la Constitution.
Je vais vous faire écouter Richard Ferrand.
Au reste, le Conseil constitutionnel est une institution mixte, au profil complémentaire, ce qui en fait, j'en suis convaincu, sa richesse et sa pertinence. Ainsi l'ont voulu les pères de la Constitution. La suite a montré combien ils avaient raison, car la dimension politique, non pas du tout en un sens partisan, mais au sens étymologique du souci élevé des choses de la cité, entre dans l'essence même du contrôle de constitutionnalité.
C'est assez énigmatique, hein, ce qui veut dire une institution mixte. Quelque part, la citation de Ferrand montre que c'est une institution qui est une institution de la cité comme une autre.
Le Conseil constitutionnel n'avait vraiment rien d'une juridiction à ses débuts. Composé de personnalités publiques, l'organe était chargé de contrôler le travail du Parlement. Et puis, il s'est progressivement donné le rôle de protéger les droits et libertés inscrits dans la Constitution à l'occasion d'un contrôle sur une loi. Le Conseil constitutionnel est aujourd'hui souvent saisi des grands textes législatifs et concentre de vives critiques sur la partialité de ses membres. Nous découvrons le Conseil en nous rendant dans la salle d'audience aménagée sous les arcades du Palais Royal, dans une ancienne boutique de chapeaux. En cette matinée ensoleillée, les enfants jouent à cache-cache au milieu des colonnes de Buren.
Le droit est fait pour organiser les relations entre les hommes. Donc c'est une bonne chose qu'on soit entouré des bruits des enfants qui viennent s'amuser ici et que nous soyons au cœur de la cité.
Les gardiens du droit, une série documentaire de Cyril Marchand et Véronique Samouiloff. Épisode 3, juger la loi, le Conseil constitutionnel.
Je suis Jacques Mézard, je suis membre du Conseil constitutionnel depuis 2019. Il faut se souvenir que sous les républiques précédentes, il n'y avait pas de Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a été créé par le général de Gaulle lorsqu'il a mis en place la Constitution de 1958. Et à l'époque, on a dit que le Conseil constitutionnel avait essentiellement le rôle d'être le chien de garde de l'exécutif, c'est-à-dire de veiller à ce que le Parlement n'empiète pas trop sur les pouvoirs du gouvernement, donc de l'exécutif.
Ça a été une institution, et c'est toujours le cas, qui a été chargée, dans le cadre de la révolution gaulliste...
Thomas Perroux, professeur de droit public.
...contrôler le Parlement, de faire en sorte que le Parlement n'excède pas le champ de ses compétences, et a été donc vu comme une dernière étape dans l'élaboration de la loi. D'où cette curiosité que l'on a en France d'un contrôle de constitutionnalité après le vote de la loi et sa promulgation par le président de la République.
C'est pour rétablir le bon fonctionnement du régime parlementaire que le Conseil constitutionnel a le contrôle de la constitutionnalité.
Michel Debray, conférence de presse, 1958.
Il est bien entendu sur ce point, et je m'explique, que nous ne sommes pas allés au contrôle de la constitutionnalité du type américain, ouvert à tout le monde. Là aussi, il y a une question de tradition et de légitimité en France. Aux États-Unis, n'importe qui devant n'importe quel tribunal peut contester la valeur de la loi au regard de la Constitution. Dans notre état d'esprit, il est probable que ce mécanisme eût été source d'anarchie. Il n'est pas bon que n'importe quel citoyen puisse prétendre à contrôler la loi. Alors, le Conseil constitutionnel est un instrument valable, mais à la disposition de quatre personnages seulement, le président de la République, le Premier ministre, les présidents des deux assemblées. Ce sont ces quatre personnages qui, individuellement et séparément, pourront saisir le Conseil constitutionnel lorsqu'une loi leur paraîtra inconstitutionnelle. Et en ce qui concerne certaines lois et les règlements des assemblées, au surplus, le Conseil constitutionnel sera automatiquement saisi.
Alors, c'est ce qui s'est passé les premières années, c'est-à-dire que le Conseil constitutionnel a rendu très peu de décisions. Je crois que la première année, de mémoire, il a dû une trentaine, enfin, c'est-à-dire qu'il se réunissait, je crois, 5 ou 6 fois par an.
Jacques Mézard, membre du Conseil constitutionnel.
Il y a eu un véritable tournant en 1971 avec la décision dite « liberté d'association ».
C'est l'irruption des droits fondamentaux qui a fait du Conseil constitutionnel un gardien des droits fondamentaux. Ça, c'est la décision « liberté d'association » de 1971. À l'époque, c'était Gaston Palevski qui était le président du Conseil constitutionnel et qui a voulu, pour des raisons qui sont pas tout à fait claires, même si elles se clarifient progressivement, qui a voulu élever le Conseil constitutionnel au rang de gardien des droits fondamentaux.
De même que notre régime est à la fois présidentiel et parlementaire, il est à la fois juridique et d'équilibre et politique. Il tranche et il examine. Je crois qu'il a réussi.
Gaston Palevski, président du Conseil constitutionnel.
Et la preuve, c'est que dans les
1972.
Projets de réforme qui émanent des différents partis, aucun ne songe à le supprimer, bien au contraire, on ne songe qu'à étendre son rôle et à renforcer ses attributions. C'est ainsi que nous avons eu à connaître, en effet, de la loi sur la liberté d'association. Nous avons eu aussi à examiner dans quelles conditions la publicité pouvait être introduite à l'ORTF sans nuire à cette institution. Et je crois que là aussi, nous avons marqué les choses comme elles devaient l'être.
La dernière étape, sous Jean-Louis Debré, ça a été
Thomas Perroux,
la mise en place d'une nouvelle voie de droit, la QPC, qui permet à certains requérants, dans certaines conditions, d'accéder au Conseil constitutionnel au moment d'un litige qui porte sur l'application d'une loi.
QPC, qui signifie ?
Question prioritaire de constitutionnalité.
Conscient de la volonté du constituant, conscient de nos responsabilités, nous ferons en sorte que la question prioritaire de constitutionnalité permette de renforcer l'état de droit et de renforcer la protection des libertés.
Jean-Louis Debré, président du Conseil constitutionnel.
Pour assurer le succès de cette nouvelle procédure,
2010.
Le Conseil constitutionnel veillera à développer avec le Conseil d'État et la Cour de cassation l'esprit de dialogue des juges qui doit nécessairement accompagner la question prioritaire de constitutionnalité.
Là, vous êtes dans la salle d'audience.
Qui est l'accusé dans cette salle d'audience ?
Il n'y a pas d'accusé.
C'est pas le procès fait à la loi.
Là
où dans un tribunal plus classique, on retrouve d'un côté la défense et de l'autre côté la partie civile, ici le face-à-face se joue entre les avocats de la partie qui conteste une loi et de l'autre côté le gouvernement qui défend cette loi.
Les avocats s'installent ici. Ils peuvent aussi s'installer de l'autre côté, mais là, c'est la place du représentant du Premier ministre, du secrétariat général du gouvernement, puisque le gouvernement défend la loi existante.
Alors c'est une formation de jugement en demi-cercle telle qu'on la connaît. Donc ici sont installés les 9 membres. Il y a un certain nombre de documents qui sont déjà disposés.
C'est que nous avons là le nom de l'affaire, le nom des conseils, les parties intervenantes quand il y en a, etc.
Donc hier matin, vous avez siégé ici pour 2 audiences de QPC.
Oui.
Alors à présent, quand on regarde ce qui se trouve juste derrière vous, on avait l'impression en entrant dans la salle que c'était des panneaux de bois uniformes et que c'était un mur. Et en réalité, on voit que c'est une porte. Alors cette porte, elle mène où ?
Elle permet d'accéder aux étages du Conseil constitutionnel, au premier étage. Allez-y.
Merci.
Avec la QPC, on a introduit l'audience.
Dominique Lottin.
On a introduit le débat, on a introduit le contradictoire.
Ancienne membre du Conseil constitutionnel.
Et dès lors, les deux procédures se rejoignent de plus en plus. pour effectivement faire du Conseil constitutionnel une cour constitutionnelle avec une procédure. Et d'ailleurs, il y a aussi un règlement intérieur qui a été pris pour clarifier tout cela et fixer des règles de procédure extrêmement prégnantes.
Il faut être clair là-dessus, nous ne sommes pas une Cour suprême.
Alors justement, qu'est-ce qui manque au Conseil constitutionnel pour qu'on le qualifie de Cour suprême comme aux États-Unis ?
Alors je ne suis pas sûr que ça manque. Nous ne sommes pas une Cour suprême, pourquoi ? Parce que, à la fois, nous n'avons pas compétence pour annuler des arrêts de la Cour de cassation ou du Conseil d'État. Nous ne sommes pas un degré de juridiction supplémentaire. Nous sommes là pour dire, suite à des recours qui nous sont transmis, si les dispositions qui nous sont transmises sont conformes à ce bloc de constitutionnalité, c'est-à-dire aux grands principes fondamentaux de notre République. Nous ne sommes pas un nouveau degré de juridiction.
En réalité, quand on commence à creuser, il y a beaucoup de choses qui différencient le statut des juges au Conseil constitutionnel de véritables magistrats. D'abord, les règles procédurales qui s'appliquent à l'instance devant le Conseil constitutionnel sont très souples. Il n'y a pas de possibilité de récuser un membre du Conseil constitutionnel en contrôle a priori, c'est-à-dire après le vote de la loi. Donc il y a peu de garantie d'impartialité de ce juge et il y a peu de déontologie aussi qui s'applique à ces juges. Il n'y a pas de discipline, il n'y a pas de conseil supérieur de la magistrature qui pourrait vérifier que le juge constitutionnel, que les juges du Conseil constitutionnel n'ont pas eu de conflit d'intérêts au moment d'une décision. Mais c'est quelque chose qui est souvent le cas dans ce type de juridiction à l'étranger, c'est-à-dire on s'aperçoit, comme la sociologie a bien montré, que plus on monte dans les hiérarchies sociales et plus les règles, l'application des règles se distend, et ben plus on monte dans la hiérarchie des cours et moins finalement il y a de règles déontologiques qui s'appliquent à elles, et notamment la présence des politiques, qui est très très curieuse. La France n'est pas le seul pays où il y a une juridiction constitutionnelle avec des hommes ou des femmes politiques. Mais c'est quand même une curiosité qui fait que ça peut causer des problèmes.
Moi, je constate que personne ne m'a jamais appelé pour me dire « ça serait bien que là, dans tel dossier, tu ailles dans tel ou tel sens ». Que ce soit le pouvoir politique, que ce soit le pouvoir parlementaire, nous sommes un certain nombre à avoir passé un certain nombre d'années au Parlement. Donc, que ce soit dans les oppositions, dans la majorité, etc. Ce que je constate, c'est que, en général, nous avons notre carrière derrière nous. Pas en général, d'ailleurs, pour tout le monde. Nous sommes totalement libres. D'abord, nous sommes nommés pour 9 ans, mais avec impossibilité d'être renommé, ce qui est aussi, je dirais, utile par rapport à l'indépendance, par rapport au pouvoir de nomination. Vous savez, nous, comme je l'ai dit, nous avons notre carrière derrière nous, nous n'attendons rien, et je dois dire que je constate que je suis assis avec des gens qui sont totalement libres.
Je n'ai jamais, mais vraiment très sincèrement, entendu autour de la table des débats partisans.
Dominique Lottin.
Nous avons tous, évidemment, tous les membres ont une opinion politique. Mais quand on arrive au Conseil, je crois que ces opinions, elles sont transcendées par autre chose, qui est une volonté véritablement du bien commun, une volonté d'appliquer des valeurs et de défendre l'état de droit. J'y reviendrai tout à l'heure aussi. Je n'ai jamais entendu de discussions. Elles peuvent être vives, les discussions, parce que quand on n'est pas d'accord et que on a du caractère, on défend évidemment sa position, mais jamais d'invectives. Le respect de l'autre, le respect de l'opinion et un débat qui cherche avant tout à conforter la décision et la motivation de cette décision. Donc je n'ai jamais, je le dis très sincèrement et très très librement aujourd'hui.
Est-ce que ils sont fidèles à la ligne de la personne qui les a nommés. On ne peut pas le dire en France. On n'a pas d'études empiriques. D'abord, on n'a pas les votes. Les votes ne sont pas publics et les juges, à la différence de la Cour suprême américaine, par exemple, où on sait quel juge a voté dans quel sens, on ne le sait pas en France. Dans 25 ans, on saura, puisque les archives sont ouvertes au bout de 25 ans, on saura quelles sont les opinions des uns et des autres, mais on ne le sait pas globalement parce qu'en fait, on connaît les opinions en fonction de ce que disent les uns et les autres, mais on n'a pas le sens du vote dans les archives. Donc, ce qu'on voit en revanche, en dehors de ça, le processus à l'intérieur du Conseil et l'éthos des membres, le fait qu'ils sont nommés en général en fin de carrière et le fait qu'il y a eu cette ambiance de club que Dominique Schnapper et d'autres anciens membres du Conseil constitutionnel ont mis en évidence. Voilà, cette ambiance, cet éthos font que la politisation est assez limitée. En outre, le travail à l'intérieur du Conseil constitutionnel est beaucoup centré autour du président, qui est une véritable figure. Donc je dirais que la figure du président est en revanche déterminante, ou peut être déterminante, et du secrétaire général, qui peut être plus ou moins activiste, en fonction des périodes.
Madame Thiebaud Martinez fait valoir un doute sur mon indépendance du fait de la proximité connue avec le président de la République.
Richard Ferrand, audition pour la présidence du Conseil constitutionnel.
Vous savez,
2025.
N'attendez pas de moi le reniement de Saint-Pierre. Je ne vais pas vous dire trois fois que je ne le connais pas. Ce serait inexact et mensonger. Mais accepter l'idée que avoir partagé des engagements ne crée pas nécessairement un lien de vassalité. Sinon, vous, mesdames et messieurs les députés qui êtes des citoyens engagés, élus, qui appartenez à des organisations politiques, qui ont souvent un ou une leader, avez-vous le sentiment d'être des vassaux de ceux qui dirigent vos mouvements politiques? Je ne le crois pas. Et pourquoi moi le serais-je plus que vous?
Est-ce que vous vous souvenez du jour où vous avez appris que votre nom était envisagé par le président de la République pour une nomination au Conseil constitutionnel ?
Oui, je m'en souviens d'ailleurs. Pour tout vous dire, je n'avais jamais envisagé de siéger au Conseil constitutionnel, ni demandé à y siéger. À la fois, j'étais très honoré de la proposition, mais j'ai réfléchi aussi, on n'est pas forcément obligé d'accepter. D'ailleurs, je connais des gens qui ont refusé de siéger au Conseil constitutionnel. Bon, moi, je l'ai pris comme un honneur émanant du président de la République. Ceci étant, j'ai réfléchi parce que j'étais revenu au Sénat et bon, j'ai longtemps été président d'un groupe parlementaire. J'ai beaucoup aussi aimé le travail parlementaire, mais bon, voilà.
C'est cette expérience politique, cette connaissance de la fabrication de la loi, vous pensez, qui joue aussi dans ce qu'on recherche chez un membre du Conseil constitutionnel ?
Écoutez, je crois qu'il faut des expériences diverses, mais qu'il faut de l'expérience. Je ne sais pas si nous sommes des sages. Personnellement, je suis pas sûr d'avoir été toujours sage dans ma vie. Mais je crois que ce qui est vraiment important, c'est d'avoir des expériences. Bon, je dirais une expérience du droit, une expérience de la fabrication de la loi. J'ai exercé le métier d'avocat pendant 37 ans. J'ai passé 11 ans à la faculté de droit. Toute ma vie, j'ai pratiqué le droit.
Est-ce que c'est un problème, ça, justement, que les membres du Conseil constitutionnel n'aient pas nécessairement de formation en droit ?
Alors, à première vue, oui, c'est un problème parce que, une juridiction doit être faite de membres qui ont des compétences en droit si on veut que la décision finale soit faite par les personnes qui ont été nommées d'après la Constitution pour faire cette décision. Après, on pourrait imaginer des systèmes alternatifs qui leur permettraient de monter en compétences. Après tout, on peut tout à fait faire la même objection au Conseil d'État. Lorsque vous sortez de l'ENA, vous n'êtes pas juriste. Et pourtant, le Conseil d'État, de l'avis commun de l'ensemble des juristes en droit public, est un très bon juge en matière de droit administratif. Pourquoi ? Parce que on a des jeunes qui rentrent juste après l'ENA, l'INSP, aujourd'hui dans cette institution et qui se forment et qui ont de l'aide. Il y a des services très compétents pour d'aide à la décision. Et donc, finalement, ils montent en compétences. Pour les juges au Conseil constitutionnel, c'est plus compliqué de mettre ça en place parce qu'ils arrivent en fin de carrière. Et puis, il y aurait une autre structure qui leur permettrait de gagner en compétences, ce serait de doter chaque juge d'assistants, sur le modèle de la Cour suprême américaine où chaque juge dispose de clerks. Ce modèle-là a été refusé et est refusé régulièrement. Pourquoi ? Parce que le président et le secrétaire général veulent garder la main. Donc c'est une raison interne qui fait que on ne veut pas permettre aux juges de monter en compétences.
Donc là, nous sommes dans le grand salon, la salle de réception. Vous voyez que ce qui est un peu... Il y a plusieurs originalités en dehors de la taille. Je vous rassure, il n'y a pas de bal organisé au Conseil constitutionnel.
Oui, on dirait une vieille salle de bal.
Il a pu y en avoir, mais pas depuis que le Conseil constitutionnel siège ici. Alors, il y a quand même des originalités, c'est que... D'abord, c'est une salle que nous utilisons pour travailler. On y reçoit par exemple assez souvent des parlementaires qui viennent soutenir les recours qu'ils nous font, puisque depuis peu de temps d'ailleurs, nous avons mis en place la possibilité pour les parlementaires qui forment un recours de venir exposer devant nous leurs arguments. Donc ça se passe en général ici. Vous voyez que c'est original sous la République, c'est que dans ce cas-là, nous travaillons sous l'aigle impérial d'un côté et sous le portrait de Napoléon III et de l'impératrice qui sont là-haut. Bon.
Alors, en quittant le grand salon du Conseil constitutionnel, on se trouve dans une sorte d'antichambre en forme de salon, avec des portes fermées, et derrière ces portes se trouve la Comédie française. On peut entendre parfois ici des comédiens répéter leurs pièces. Aujourd'hui, je ne sais pas si on va les entendre, on va s'approcher.
On n'est pas dans un débat comme devant une juridiction judiciaire avec, vous en parliez tout à l'heure, la partie civile, le prévenu, etc. Du tout. Nous avons un rôle de décision pour dire si une disposition législative est conforme aux principes constitutionnels ou pas. C'est pas la même chose.
Oui, on sent que le champ lexical n'est pas le même. Ce n'est ni un arrêt, ni un jugement, c'est une décision. Mais malgré tout,
alors, c'est une décision. Et c'est une décision qui a une caractéristique de par l'article 66.1 de la Constitution, c'est qu'elle s'impose à tous. C'est-à-dire que quand le Conseil constitutionnel prend une décision, par exemple une décision de censure, considérant qu'un texte, un article d'une disposition législative n'est pas conforme à la Constitution, notre décision s'impose à tous.
En 2017, la France vit sous le régime de l'état d'urgence sécuritaire pour parer à la menace terroriste. Depuis quelques années, des réformes législatives interviennent pour pérenniser ou élargir le recours à des techniques de surveillance poussées et adapter certaines procédures pénales. C'est ainsi qu'est introduit dans le code pénal un délit de consultation habituelle de sites terroristes. L'un des premiers à être concerné par ce texte est un homme connu pour des infractions de droit commun. À l'occasion d'une perquisition à son domicile, les policiers découvrent que l'homme s'est inscrit sur un canal de discussion djihadiste qui relaie les enregistrements audio et vidéo de l'État islamique.
Alors, ce monsieur, il est connu des services de police pour des faits de délinquance de droit commun. Il va se retrouver incarcéré et l'État, l'administration, le soupçonne de s'être radicalisé en prison.
Guillaume Lelay, sociologue.
À la suite des attentats de Nice, il se trouve, comme d'autres, assigné à résidence. Et il va être accusé et poursuivi pour violation de cette assignation en résidence. Il rentre en réalité, d'après son avocat, de manière fortuite en contact avec un de ses anciens codétenus qu'il a le tort d'inviter jusqu'à chez lui, ce qui entraîne une perquisition. Et à cette occasion, les enquêteurs découvrent qu'il a pour habitude de se connecter à un site, une chaîne d'une application de messagerie, Telegram, djihadiste. En tout cas qui diffuse des contenus djihadistes. Il est donc poursuivi sur la base de ce nouveau délit et il va décider de déposer une QPC immédiatement devant le tribunal correctionnel.
Madame la greffière.
Merci monsieur le président. Le conseil constitutionnel a été saisi le 9 octobre 2017 par un arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité posé par M. David Pagery, portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit.
Conseil constitutionnel.
Les dispositions de l'article
audience
421-2-5
16 décembre 2017.
Cette question, relative au délit de consultation habituelle de sites internet ou terroristes, a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le numéro 2017-6.
Alors, le délit de consultation d'un site terroriste, c'est un délit
Guillaume Lelay.
Qui correspond à un projet qui a été régulièrement envisagé par les pouvoirs publics. Déjà en 2012, un tel projet avait été soumis pour avis au Conseil d'État qui s'y était montré défavorable en estimant que la France disposait déjà d'un arsenal légal et pénal qui permettait de prévenir en amont d'un acte terroriste. Mais dans la foulée des attentats de 2015 et de l'attentat de Nice en 2016, la droite sénatoriale va défendre un tel projet et donc instaurer ce délit de consultation habituelle d'un site terroriste en néanmoins l'affectant d'une exception de bonne foi qui va concerner notamment le travail des journalistes, le travail des chercheurs et également des agents qui se chargent de l'administration de la preuve pénale.
Seront entendus aujourd'hui l'avocat de la partie requérante, les avocats des parties intervenantes et le représentant du Premier ministre.
Le critère important, c'est vraiment cette intentionnalité. C'est est-ce que la personne, elle peut, est-ce qu'elle a l'intention, même s'il n'y a pas encore eu évidemment de passage à l'acte. Mais
Alexis Fidjan, avocat.
Mais il faut qu'il y ait des actes matériels qui montrent qu'il y a une intention de passage à l'acte.
Nous allons entendre Maître Fidjan, qui représente la quadrature du net, partie intervenante. Maître.
Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil constitutionnel. Ce n'est jamais une tâche facile, et c'est en effet un important défi pour une juridiction que de faire preuve de sagesse.
La quadrature du net se rend compte qu'il y a parfois certains décideurs qui ne sont pas du tout réceptifs à certains arguments, et donc il y a une certaine lassitude aussi du collectif à répéter sans cesse un certain nombre d'arguments de bon sens qui sont parfois même pas compris par certains décideurs. Donc il y a cette prise de conscience que finalement le contentieux peut constituer un prolongement de cette action de plaidoyer. Pour schématiser, vous avez le plaidoyer qui est avant le vote d'une loi, l'idée c'est faire valoir un certain point de vue auprès des décideurs, du Parlement et du gouvernement. Et puis, cette action de plaidoyer elle n'a pas porté les fruits escomptés, on peut ensuite envisager éventuellement des contentieux stratégiques sur ces enjeux-là.
C'est pourquoi j'ai l'honneur aujourd'hui de vous demander, au nom de la quadrature du net, de censurer les dispositions attaquées avec effet immédiat.
Merci, maître. Nous allons maintenant entendre maître Sureau pour la Ligue des droits de l'homme.
Monsieur le Président, mesdames et messieurs les membres du Conseil constitutionnel, j'irai directement dans le fond du sujet. D'une part, nous dit le législateur, il y a de mauvaises lectures. D'autre part, on peut inférer du contenu même de ces lectures une probabilité suffisante de risque de passage à l'acte pour qu'il soit justifié de les punir, si l'on suit.
Alors effectivement, dans cette décision, ce qui est classique, c'est qu'on a un conflit entre deux éléments. D'une part, un objectif de politique publique, qui est l'objectif que le législateur souhaite poursuivre, ici, qui est un objectif de sécurité, et d'autre part, l'exercice d'une liberté fondamentale, ici, la liberté de communication. Il y a plusieurs étapes à poursuivre. Et notamment, il y a des étapes qui visent à voir si le législateur peut prouver, et ça c'est clé, que la mesure qui est adoptée et qui viole une liberté fondamentale, ici la liberté de communication, va au moins atteindre son but. En gros, on prend une mesure dans un but de politique publique. Si on le fait et qu'il y a une violation des droits fondamentaux, il faut au moins que cette violation, elle porte dans la réalité. Elle ait un effet sur le réel.
Serait lourde de danger. Il n'y a pas de moi où on ne propose à un ministre de l'Intérieur un texte limitant la liberté au motif qu'il faciliterait l'action de la police. Nous en sommes exactement là, mais l'enfer étant pavé de bonnes intentions, il n'est pas du tout sûr que la disposition incriminée facilite l'action de la police. Elle pourrait aussi la noyer sous la lourde tâche d'incriminer tous ceux qui consultent. Telle qu'elle se présente, la disposition dont on parle et qui reprend comme on sait la disposition précédente repose sur un double fondement. D'une part, que la consultation de certains sites, sans qu'on puisse d'ailleurs préjuger de l'intention de celui qui consulte, est mauvaise en soi. Et d'autre part, qu'elle dispose nécessairement au passage à l'acte criminel. D'un côté, la République réinvente l'index, de l'autre, elle remet au goût du jour la loi des suspects.
Et si lorsque le Conseil reproche au texte de ne pas se fonder sur l'intention, c'est parce qu'il cherche à préserver la liberté de s'informer, la libre communication. Et dans cet exercice où il cherche à concilier cette liberté avec la préservation de l'ordre public et la poursuite des auteurs d'infractions, parfois d'infractions très graves, il estime qu'il faut caractériser cette intention.
Maître Alexis Fitjean a demandé à intervenir dans l'intérêt de la Quadrature du Net et a produit des observations à cette fin le 31 octobre 2017.
L'intervention de la Quadrature du Net devant le Conseil constitutionnel procède de la stratégie opportuniste du collectif. Chaque fois qu'il en est possible, à chaque fois qu'une question qui est portée devant le Conseil constitutionnel pose une question d'ordre informatique, à se joindre, disons, au litige, par cette procédure d'intervention volontaire. L'enjeu pour la Quadrature du Net, c'est d'essayer véritablement, et c'est une stratégie totalement assumée, d'opérer une socialisation à la fois linguistique et intellectuelle des conseillers, en essayant de les pousser à adopter une conception, des enjeux juridiques qui soit ancrée dans les libertés fondamentales et dans la cause des libertés numériques. Elle essaye en fait de lier des cas épars et de les faire comprendre par le Conseil constitutionnel et plus encore par les conseillers constitutionnels comme relevant d'enjeux finalement communs. C'est une opération qu'on pourrait dire de cadrage cognitif du Conseil constitutionnel.
Nous avons pas mal d'avocats qui vont intervenir. Je vous demanderai d'être très concis.
De plus en plus, les associations, à l'imitation d'ailleurs de ce qui se passe à l'étranger, notamment de la société américaine, mettent en place des contentieux stratégiques, c'est-à-dire décident, peut-être est-ce une marque du blocage de notre système politique, c'est-à-dire que les différents groupes sociaux n'arrivent pas à faire passer leurs agendas au niveau politique, et donc font des contentieux pour attirer l'attention de l'opinion publique sur tel ou tel problème. Par exemple, les associations désormais de protection de l'environnement n'hésitent pas à porter des recours pour faire connaître et mettre en évidence les carences de l'État dans la lutte contre le changement climatique. Donc ça, c'est un changement de fond qui fait que les associations désormais en France envisagent de plus en plus le contentieux comme étant une arme politique.
Merci
à part entière.
Est-ce qu'un membre du Conseil a une question à poser ?
Non.
Eh bien, nous allons mettre cette affaire en délibéré et nous rendrons notre décision le 9 janvier. Bonne journée à tous.
France Inter. Le niveau de menace terroriste reste extrêmement élevé en France. Au même moment où l'on apprenait ce matin qu'un attentat était déjoué, coïncidence bien sûr, le Conseil constitutionnel faisait connaître sa décision de censurer un article de la loi de juin dernier visant à renforcer la lutte contre le terrorisme. Un article qui punissait de 2 ans d'emprisonnement ceux qui consultent de façon habituelle les sites djihadistes. Cet article, Sarah Guibaudot, ont estimé les sages, porte atteinte aux libertés fondamentales.
Vous
allez voir, nous avons une bibliothèque et une documentation extrêmement fournie et dont on se sert beaucoup, nous et puis évidemment nos équipes et nos collaborateurs. Dessus, mais on ne pourra pas y aller, nous avons des ruches. Et vous voyez que nous avons vraiment, au point de vue documentation, une bibliothèque extrêmement fournie. Mes collègues viennent assez régulièrement ici ou demandent à nos collaborateurs de leur fournir tel ou tel document, tel ou tel article dans telle revue juridique ou dans tel traité. C'est un lieu absolument essentiel pour que nous ayons toutes les possibilités d'accès à tout ce qui s'est écrit dans le domaine juridique, puisque il n'y a pas, vous le voyez ici, que du droit constitutionnel. Et quand je suis arrivé, je me suis enquis de savoir s'il y avait suffisamment d'ouvrages de droit civil. Et on a renforcé la bibliothèque en droit civil.
Ici, on se trouve du côté où il y a des essais juridiques. Donc il y a par exemple le droit ouvrier, la semaine juridique sociale. Ici, il était une fois analyse juridique des contes de fées, linguistique juridique, les avatars de la volonté générale, à quoi nous sert le droit.
Ce que je voudrais expliquer, c'est la façon dont travaille le Conseil constitutionnel, parce que...
Dominique Lottin.
Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont pas des décisions autour d'une table, des débats politiques ou chacun exprimant une opinion. C'est un travail qui se construit. Donc comment travaille le Conseil ? Le Conseil a un service juridique, mais aussi un service de documentation. Dès qu'une loi est en discussion au Parlement, le service de documentation du Conseil constitutionnel, sous l'égide et sous la responsabilité du secrétaire général, commence à travailler sur ce texte. Et il va documenter l'intégralité du texte en débat, c'est-à-dire qu'il va suivre les débats parlementaires, les enregistrer et va rechercher dans les précédents ou dans des articles de doctrine ou dans de la jurisprudence européenne tout ce qui fait référence à cela.
La revue Justice et Cassation, la revue Pouvoir, avec ici le dernier numéro consacré à Matignon, les impôts, les conflits d'intérêts, le renouveau du Parlement, les réfugiés.
Et puis ensuite, dès que le Conseil constitutionnel est saisi, les juristes, Merci. L'équipe de juristes va commencer à intervenir. Vous avez d'abord des juristes juniors, qui sont souvent des doctorants, et qui vont commencer à écrire ce qu'on appelle la note du secrétariat général. C'est une note qui est destinée à tous les membres du Conseil. Et dans cette note, il va détailler quelles sont les dispositions qui sont contestées. Ces juristes juniors arrêtent là leur travail. Et puis viennent ensuite les juristes seniors. Ils sont au nombre de 5. Vous avez un administrateur du Sénat, un administrateur de l'Assemblée nationale, un professeur de droit, un magistrat judiciaire de l'ordre judiciaire et un magistrat de l'ordre administratif. Tout ça dirigé par le secrétaire général du Conseil constitutionnel. Ces 5 juristes, qui sont donc seniors, qui ont une expérience professionnelle, eux, à partir du travail, du premier travail qui a été fait, ils vont étudier les recours qui sont portés devant le Conseil constitutionnel et ils vont débattre des jurisprudences existantes. À partir de là, ils vont éventuellement proposer une solution aux membres du Conseil, mais pas nécessairement, en disant « il faut aller éventuellement où nous vous proposons de la censure s'impose ou au contraire ne s'impose pas », ils vont évidemment la documenter. Et intervient alors, une fois que cette note est formalisée, qu'elle est adressée à tous les membres. Il y a un membre désigné, voire deux pour les textes les plus importants, comme rapporteur. Et c'est lui qui a la main pour proposer un projet de décision, voire deux projets. Et c'est ce projet écrit donc par le rapporteur avec les juristes qui va être discuté en séance. Les séances ont lieu tous les jeudis. Et donc, c'est parce que les délais sont extrêmement contraints qu'il faut rentrer en séance avec un projet de décision, vous comprenez bien. Et c'est ce projet qui est discuté par les membres autour de la table. Et après, évidemment, que le rapporteur ait fait son rapport.
Et après, il y a l'audition finale, la délibération de l'ensemble des juges. Et là, on voit bien, dans la pauvreté des échanges, que finalement, la décision est quasiment faite. Et que, eh bien, si tout s'est bien passé, tout est fait pour que la décision préalable qui avait déjà été élaborée par les bureaux, eh bien, finisse par prévaloir au moment de la délibération finale. À tel point d'ailleurs que les présidents ont pu élaborer des techniques. Par exemple, Jean-Louis Debré a pu dire si vous n'êtes pas d'accord, si quelqu'un a une contre-proposition, il doit faire une rédaction et faire une proposition de rédaction de décision. Comme vous avez pu le voir, la rédaction juridique des décisions du Conseil constitutionnel, si vous n'avez pas l'habitude de rédiger de cette façon, vous ne pouvez pas élaborer rapidement un contre-projet. Donc c'est aussi une façon pour le président de garder la main en forçant d'éventuelles têtes fortes à proposer quelque chose de faisable. Si vous n'avez pas de compétences juridiques, et la majorité des membres du Conseil constitutionnel n'en a pas, eh bien, vous aurez beaucoup de difficultés à ce moment-là pour faire prévaloir votre volonté.
La revue de droit sanitaire et social.
Analyse et réflexion sur Montesquieu.
Recueil des décisions du Conseil d'État.
Histoire des idées politiques.
Revue française de droit administratif.
Une histoire du conflit politique. La République incarnée.
Un recueil de Légipresse par
analyse
année.
Économique du droit.
Essai sur la codification.
L'hommage en droit public.
Je pense qu'il est utile.
Le sens des lois.
Au Conseil constitutionnel d'avoir
la justice et le droit.
Une culture générale juridique.
Les vertus du juge.
On peut être un très grand constitutionnaliste et ne pas connaître la procédure pénale.
De l'injuste
parce
au juste.
Parce que vous avez remarqué que les dispositions législatives porte sur tous les domaines du droit, droit civil, le droit pénal, le droit social, le droit administratif. Et les questions prioritaires de constitutionnalité visent tous les domaines du droit. On a des questions prioritaires de constitutionnalité souvent sur la procédure pénale, sur le droit pénal, sur le droit de l'expropriation, sur le droit de l'insionnalité, on peut dire sur l'ensemble du droit.
En fait, là se pose la question de ce qu'est le droit constitutionnel. Est-ce que c'est pas aussi un droit politique ?
C'est résolument un droit politique. Il y a tout un tas de catalogues de droits fondamentaux qui ont donc le caractère politique et est tout à fait clair lorsque, en 1982, il a été question de juger des nationalisations. La décision du Conseil constitutionnel était une décision politique. Il s'agissait à l'époque du premier gouvernement de gauche qui avait un programme politique basé sur un grand mouvement de nationalisation. Et le Conseil constitutionnel a fait barrage à ce mouvement en consacrant de nouvelles libertés et droits fondamentaux de type économique. Liberté d'entreprendre, droit de propriété. Droit de propriété qui est dans la tradition de politique française depuis la Révolution française, auquel on attache un caractère bourgeois. Donc, il n'y a aucun doute que les droits fondamentaux sont politiques et que le Conseil constitutionnel a un rôle politique aussi en les faisant appliquer.
Et nous allons vers la salle de délibérer.
Jean-Louis Debré, d'ailleurs, a aussi raconté dans son livre « Ce que je ne pouvais pas dire », comment lors de ses rendez-vous avec le patron du MEDEF à l'époque, eh bien, le patron du MEDEF lui a dit qu'ils étaient très contents de sa jurisprudence, notamment sur la censure de l'impôt confiscatoire. Donc on voit, son pouvoir augmente et son prestige social augmente. Donc, il y a des jeux à la fois individuels, il y a des jeux d'institutions, Et il y a des jeux sociaux, et le juge est arbitre de l'ensemble de ces relations de pouvoir. Et effectivement, quand il utilise la Constitution au service de tel ou tel de ses intérêts, eh bien, il agrandit son pouvoir, mais aussi celui des individus qui le composent.
C'est ici que le collège, c'est-à-dire les 9 membres du Conseil constitutionnel, délibèrent.
Alors ici, c'est un tout autre décor. On était dans une salle d'audience juste avant concernant l'audience QPC qui était très moderne, avec des panneaux en bois et du mobilier contemporain. Ici, on est dans ce qui semble être un appartement un peu d'apparat, avec des moulures, des dorures, des grands tapis. Je vois sur la porte une lettre N pour Napoléon.
Il y a ce côté aussi du poids de l'histoire, mais vous avez sur les murs quand même les textes de l'époque révolutionnaire.
On voit plusieurs textes cohabiter. Et il y a la Constitution de 1958, c'est la Constitution sur laquelle vous jugez. On voit la Constitution...
Pas que...
Alors justement, que font les autres textes ici? Je vois une déclaration des droits de l'homme.
Parce que, vous le savez, depuis la décision liberté d'association de 1971, il y a certes la Constitution, mais il y a la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, il y a le préambule de la Constitution de 1946 et maintenant la Charte de l'environnement, ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité.
Alors, vous parliez de la Déclaration des droits de l'homme. On en trouve ici une minute originale. Donc là, on a devant nous un texte qui a plus de 200 ans.
Oui.
Est-ce qu'on peut en lire un mot?
Oui, je sais.
L'exercice ne sera pas évident parce que c'est écrit à la main.
L'exercice n'est pas évident parce que j'aurais des difficultés.
Je peux m'y lancer moi si vous
même
voulez.
Même avec mes lunettes.
Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, et la suite est assez illisible. Ça nous donne déjà la couleur.
C'est quand même assez difficile à déchiffrer de loin.
Le Conseil constitutionnel a une place toute particulière dans la défense de l'état de droit, et je voudrais essayer d'expliquer très simplement que l'état de droit n'est pas un concept théorique. Ça n'est pas un débat de spécialistes ou de juristes, c'est vraiment un combat pour la démocratie et pour un État démocratique fondé sur des institutions républicaines. Et puis à cette définition est venu s'ajouter ce dont nous débattions tout à l'heure, après la Seconde Guerre mondiale, c'est une conception un tout petit peu plus large de l'État de droit qui intègre l'adhésion aux droits et aux libertés fondamentales, droits qui sont évidemment communs à toutes les démocraties et qui sont inclus pour nous dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Liberté de penser, liberté de communiquer, liberté d'aller et venir.
Alors, ce qui fait que le juge constitutionnel va décider que certains droits ont une force particulière et en faire des droits fondamentaux, donc qui sont opposables au Parlement, aux législateurs, ce sont des raisons essentiellement politiques. Lorsque le Conseil est saisi d'une loi, il va y avoir tout un débat de la société pour essayer de coder les problèmes que pose cette loi en termes constitutionnels. Une loi, elle pose des problèmes à tout un tas de groupes sociaux. Ces groupes sociaux vont essayer de combattre cette loi ou de l'appuyer en fonction de droits fondamentaux, en disant eh bien telle loi heurte, par exemple, le droit de propriété ou la liberté d'entreprendre ou la liberté contractuelle ou le principe de fraternité ou la liberté d'expression. Eh bien, en fonction de la couleur politique du Conseil, de ses convictions, il va estimer que tel droit est tellement important qu'il faut le protéger même des interventions législatives. Ça, c'est une rupture dans notre tradition depuis la Révolution française où le législateur était parfaitement souverain. il y a que très peu, finalement, la période dans laquelle on a un Conseil constitutionnel qui sanctionne des lois est assez restreinte dans notre histoire. Et c'est finalement à une certaine époque, donc récente, qu'on estime que le pouvoir du législateur doit s'arrêter devant certains droits fondamentaux. En tout cas, les droits fondamentaux qu'une juridiction, le Conseil constitutionnel, estime être si importants que même le législateur ne peut pas y porter atteinte, ou ne peut y porter atteinte que dans une mesure proportionnée.
Est-ce que vous avez déjà changé d'avis dans le cadre d'un contradictoire, d'une collégialité avec les autres membres sur le sens d'une décision ?
Écoutez, ce qui est important, c'est de réfléchir, je dirais, plus en amont possible. C'est-à-dire que on peut avoir un avis sur un texte, un avis a priori, et ensuite avoir cet avis qui se modifie plus on entre dans le sujet.
Vous vous souvenez d'un exemple marquant, révélateur?
Ça, je ne vous le dirai pas. Je ne tomberai pas dans ce piège, cher monsieur. Le secret du délibéré fait que vous n'arriverez pas à me tirer les vers du nez.
Et comment vous voyez-vous?
Alors, ceci étant, vous posez indirectement le sujet des opinions dissidentes.
Ce que j'allais vous demander. Voilà. C'est possible aux États-Unis. La Cour suprême publie les opinions dissidentes des magistrats qui ne sont pas allés dans le sens de la majorité des autres juges.
Oui,
en France, ça n'est pas possible.
Vous savez, jusqu'il y a quelques années récentes, un certain nombre de spécialistes trouvaient que la Cour suprême des États-Unis, c'était vraiment le super modèle et que eux, ils avaient vraiment d'excellents juristes, contrairement à nous, et que vraiment c'était un modèle. J'ai le sentiment que les années récentes ont changé quand même l'image que certains pouvaient avoir de la Cour suprême, dont on voit aujourd'hui que les décisions et les votes sont strictement politiques. Et je peux vous assurer que ce n'est pas le cas ici. La question des opinions dissidentes, c'est que nous avons un système de secret des délibérations. Est-ce que c'est la bonne solution? Il y a des arguments pour et des arguments contre. Moi, je ne suis pas partisan des opinions dissidentes avec la rupture du secret des délibérations, parce qu'il faut quand même se rendre compte d'une chose. Faut quand même se souvenir récemment que sur, par exemple, ce qu'on a appelé les lois retraites, nous avons siégé sous la protection de deux escadrons de gendarmerie. C'est pas forcément la bonne solution pour délibérer dans le calme. À partir du moment où vous avez les réseaux sociaux qui sont une réalité quotidienne, et on voit d'ailleurs l'impact sur le travail parlementaire, où vous avez les chaînes en continu, où vous avez tout cela. Je pense qu'il est, au niveau d'un conseil constitutionnel, c'est plutôt une bonne chose d'essayer de nous tenir à l'abri de ces pressions.
Qu'est-ce qui garantit l'indépendance du conseil d'une part et l'impartialité de ses membres d'autre part?
Alors, ça c'est un vaste débat et c'est un débat qui existera, je dirais, tant qu'il y aura des juridictions et tant qu'il y aura des cours constitutionnels, des conseils constitutionnels. Il y a eu pendant un certain nombre d'années ce qu'on appelait ici les portes étroites. C'est-à-dire, nous recevions des contributions qui pouvaient émaner de citoyens, qui pouvaient émaner de constitutionnistes, qui pouvaient émaner aussi de sociétés diverses et variées ou de lobbies. Bon, et on disait, mais ça c'est mystérieux, etc. Ils peuvent être sous influence de lobbies. Et puis, à très juste titre, le président Fabius a dit, écoutez, maintenant, on va appeler ça des contributions extérieures, elles seront publiées. Je constate que depuis, je n'ai pas lu un seul article disant que nous siégions sous la pression des lobbies.
Concernant le Conseil constitutionnel, existait la pratique de ce qu'on a appelé les portes étroites, qui était en fait extrêmement informelle. Par exemple, j'ai pu étudier le dossier contentieux de la grande décision IVG sur la loi Veil, vous trouvez des portes étroites de toutes sortes. Vous avez d'un côté des brûlots, des gens qui vont voilà faire connaître leur opinion sur la loi Veil de façon extrêmement peu juridique, et vous avez des consultations d'avocats, de professeurs qui font connaître aussi leur opinion. Donc vous avez toutes sortes de portes étroites, et tout ça était très informel. Or, c'était la pratique. Le Conseil constitutionnel a mis du temps à rendre définitivement public ses amicus. Il y a d'abord eu un moment où un rapport a été commandé qui a défendu leur caractère secret, pour finalement accepter la publication de l'ensemble de ces amicus sur le site du Conseil constitutionnel en contrôle a priori. Voilà. Donc, il y a ces canaux de lobbying, ils sont extrêmement utilisés. Certains juges ont pu dire qu'ils étaient très influents, parce que lorsque vous avez des saisines très peu motivées en termes juridiques, eh bien, les portes étroites peuvent être très intéressante pour les juges, parce que certains lobbies vont faire appel à des professeurs, par exemple, qui vont arriver à coder en termes juridiques leurs intérêts. Et donc, dans ce cadre, pour certains juges, ça peut être très intéressant, d'autant qu'ils n'ont pas d'aide dans le processus de décision. Donc, avoir une porte étroite par un professeur peut être très intéressant pour eux, pour se faire une opinion. Évidemment, à côté de ces portes étroites qui ont une forme écrite et qui sont désormais canalisées, il y a une procédure claire pour faire connaître son opinion par l'intermédiaire d'une porte étroite au Conseil constitutionnel avec un email de l'institution. À côté de ça, vous avez tous les aspects informels, les réunions en ville, etc., qui sont d'autres formes de lobbying que Jean-Louis Debray, d'ailleurs, a raconté dans son livre, qui existent, mais qui sont beaucoup plus difficiles à contrôler.
Le Conseil constitutionnel français est une petite maison, constitué à peu près de 80-90 personnes en tout et pour tout, y compris le secrétariat, standardiste, les gardiens, etc. Donc c'est une toute petite maison comparée à d'autres conseils constitutionnels où il est fréquent dans les conseils européens qu'il y ait 350 à 400 personnes. C'est aussi ce qui en fait sa force.
C'était « Les gardiens du droit », une série documentaire de Cyril Marchand, réalisée par Véronique Samouilov. Troisième épisode, « Juger la loi », le Conseil constitutionnel. Merci à Dominique Lottin, Jacques Mézard, Thomas Perrou, Alexis Fidjan et Guillaume Lelay. Merci à Élodie Cuerc et Guy Cléré pour leur accueil au Conseil constitutionnel et à Mathieu Février-Sally, chercheur. Prise de son, Michael Simon, Étienne Collin et Nicolas Depagraf. Mixage, Manu Couturier. Documentation, Véronique Jolivet. Chargée de programme, Marie-Vonna Bolivier et Anaï Morales. Coordination, Emmanuel Laurentin. Prochain épisode, Juger la dépense publique. La Cour des comptes.